Europe 1, la libre antenne, Sabine Marin.
Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir encore sur notre libre antenne. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à minuit et si vous avez envie de prendre la parole ce soir, si vous avez besoin de parler, de vous confier, vous pouvez dès maintenant appeler le 3921. Fanny et Kelvin sont prêts à vous accueillir, ils sont là au standard Europe 1 et ils sont là pour vous. Autorisez-vous à lâcher prise. Venez me parler de vous, de vos réussites mais aussi de vos échecs. Les échecs font partie de la vie. Et ils sont aussi là pour nous faire avancer. Quelquefois on réussit, quelquefois on apprend, c'est comme ça. Churchill disait aussi que le succès, c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Sacré apprentissage, je vous l'accorde. De la manière dont vous vivez vos échecs ou toute autre chose, venez me parler ce soir, venez me parler de vos expériences de vie, venez me parler de vous. Un seul numéro de téléphone, 3921. Et si vous avez envie de participer par SMS, de réagir à un témoignage, d'apporter un soutien à quelqu'un qui vous touche, et pourquoi pas une solution à proposer, bien vous faites le 739-21 suivi du mot nuit et de votre message que je transmettrai à l'antenne. C'est Frédéric Dervin qui réalise ce soir notre émission.
Venez vous confier à Sabine Marin sur Europe 1.
Et mon premier appel ce soir, c'est l'appel de Martine. Bonsoir à vous Martine.
Bonsoir Sabine. Voilà ce qui m'amène. C'est un petit peu mélangé, c'est un petit peu pagaille. J'espère que j'arriverai à m'expliquer clairement.
À nous deux, on va faire le rangement.
Voilà, bah merci beaucoup de m'aider. Et voilà ce qui se passe. Ça part de... Disons qu'il y a 10 ans et demi, voilà, j'ai perdu mon mari qui avait des problèmes d'addiction à l'alcool.
C'est de ça dont il est mort ?
C'est-à-dire, oui, indirectement, puisqu'il fumait beaucoup. Mais je précise bien, avec tout ce que l'on entend maintenant, les féminicides et tout, c'était un homme extrêmement gentil.
D'accord.
Jamais je n'étais battue, quoi que ce soit. Mais alors, c'est quelque chose de terriblement, l'alcoolisme, c'est quelque chose de terriblement insidieux, de terriblement...
Sournois.
Destructeur.
Il avait quel âge quand il en est mort ?
64 ans.
Ah, il était jeune, hein.
Enfin, jeune, oui, relative, oui. Disons que, oui, quand même, de nos jours, c'est pas vieux.
Bah non, bien
et
sûr.
Et puis, pardon.
Non, je dis bien sûr, de nos jours, 64 ans, c'est encore
ouais,
jeune.
Oui, oui. Et donc, il a fait un infarctus, qui est certainement dû à tout ça.
Oui.
Et il a fait un infarctus, et il a été hospitalisé en cardiologie pendant 8 jours. Il est sorti de l'hôpital un jeudi après-midi, donc après 8 jours d'hospitalisation. Et le lundi matin, je l'ai retrouvé mort dans le lit à côté de moi.
Oh là là. Le choc que ça a dû être.
Ouais, oui, c'est terrible. Parce que je dis, c'est très dur. Je crois que j'ai crié, j'ai hurlé, je ne sais pas. Parce que c'est se réveiller à côté de quelqu'un, comme ça, tout froid, tout dur. Enfin bref, je ne veux pas plomber la soirée des gens. Mais... c'est surtout que c'était un homme qui avait beaucoup de difficultés à parler, parce que étant jeune, il avait une mère extrêmement dure, méchante même. Je pense qu'il avait été muselé par sa mère. C'est un homme qui avait du mal à s'exprimer. Mmh. Moi, j'arrivais pas à lui sortir des confidences à ce qu'il s'exprime. Il avait du mal à parler, et moi, j'étais en état de frustration, parce que voilà, dans un couple, on a quand même besoin de savoir ce que l'autre pense. Et c'est impossible, il fuyait la discussion.
Combien de temps vous avez été mariée ?
23, enfin, on a vécu ensemble 23 ans, on a été mariés 17. Je
et
crois.
Au début, quand vous l'avez rencontré, comment ça se passait ? Il y avait déjà ce problème de mur, de manque de communication ?
C'est-à-dire que pas trop, parce que, bon, on n'était pas du tout la même région, on avait pas mal de choses à se raconter, on venait d'univers différents, donc on avait quand même pas mal de choses à se raconter. Mais c'est après, quand il a été à la retraite, puisque, enfin, il était fonctionnaire, il a été de retraite relativement jeune, quand même, à 50 et quelques années. Et au bout d'un moment, puis il n'avait jamais d'initiative, de rien, à proposer, rien.
Il n'a pas nourri la relation, quoi.
Ah, pas du tout, du tout, du tout. J'ai essayé, parce que moi, je suis une fille de communication, plutôt, et j'ai essayé, et c'est terriblement frustrant, quoi. Et surtout, même pas ça, parce que vous avez l'impression que vous ne savez pas ce qu'il pense, ce qu'il y a dans sa tête, que faire, que... Est-ce que vous faites bien, est-ce que vous faites pas bien? De toute façon, comme c'est bien. Mais c'est pas possible, il y a un moment où... Non, j'ai dû me tromper souvent. Mais il fuyait la communication. J'avais l'impression, comme qui a écrit un livre là-dessus, seul, ensemble, mais seul. J'avais l'impression d'être toute seule dans le couple, finalement.
Mais en même temps, vous parlez de fuite. L'alcool en est une aussi. Hein.
C'est-à-dire
une fuite. Ça a commencé quand?
Ah oui,
ça,
oui, oui,
ça a commencé quand, ça, ces problèmes d'alcool?
C'est-à-dire qu'à la fin de son premier mariage, moi je l'ai tué avec sa soeur aussi, à la fin de son premier mariage, qui s'est très mal terminé, et bien comme souvent d'ailleurs, oui, quand ça se termine, c'est souvent que ça se passe mal, mais ça s'est très mal terminé, il a beaucoup souffert, et c'est à ce moment-là, je pense qu'il s'en servait comme d'un antidépresseur.
Donc depuis le premier jour où vous l'avez connu, il avait déjà cette addiction?
Ben moi je m'en suis pas rendu compte tout de suite, quoi.
Ah.
Comme c'est un homme qui paraissait assez gay, ça, moi j'ai cru au début que c'était un peu festif, quoi, qu'il avait.
Bon. Il n'avait pas l'alcool mauvais, en tout cas.
Non, ah, pas du tout. Bon. Là-dessus, Ah non, c'était un homme gentil. Hein.
Mais comment vous avez réalisé un jour qu'il y avait quand même quelque chose qui n'était pas très net au niveau des boissons?
Ben, je crois qu'au début, il y avait la passion, j'étais très amoureuse, et puis je ne voulais pas voir.
Oui, c'est ça, oui.
Je ne voulais pas voir. Mais c'est après qu'il y a la retraite, tout ça, je me suis rendu compte. Il me faisait des mensonges, des cachotteries. Et puis c'est terrible de vivre ça parce que, comment expliquer, j'ai découvert plein de choses. Quoi. Déjà des dépenses inconsidérées, et puis des cachettes, puis des mensonges. Enfin,
ben malheureusement, c'est un peu le lot, ça va avec, hein, souvent.
Pardon, je ne vous entends pas bien.
C'est un peu le lot, c'est le package, ça va souvent avec ça. L'alcool, le mensonge, les dépenses, tout ça,
ah ouais, oui,
malheureusement,
oui,
c'est un peu le lot.
Mais vous savez, quand vous avez quelqu'un qui vous regarde en face et qui vous dit « Je te jure sur ma tête, je te jure sur ta tête, je te jure sur la tête de mon fils et de toute ma famille que je ne bois plus. » Alors que vous savez que... C'est là, je sais où il cachait. Il avait en particulier un carton dans le coffre de la voiture, avec une bouteille, de l'eau, un torchon, un verre. J'appelais ça sa structure. Et je le savais très bien. Mais c'est comment vous expliquer? Je me suis demandé à un moment si c'est pas moi qui avais des hallucinations, qui perdais pied. Il avait même acheté une bouteille d'apéritif sans alcool. Il me dit, tu vois, moi, c'est le goût de l'anis que j'aime. Et voilà, donc... Pour me faire un scénario, quoi. Et quand il est parti, après, je suis allée ranger un peu le garage et tout. J'ai déjà vu qu'il avait, dans sa voiture, il avait tout jeté ce qu'il avait dans le coffre. Donc, l'espace de temps, c'est-à-dire qu'il est sorti jeudi après-midi de l'hôpital et jusqu'au dimanche soir, lundi matin, eh bien, il est allé tout jeter.
Donc, alors, vous pensez que c'est dans quel objectif? Vraiment pour arrêter ou pour pas que vous
tombiez
dessus?
C'est-à-dire qu'il avait un traitement. Il avait un traitement à suivre de 8 cachets par jour. Je pense qu'il pouvait bien mélanger cachet alcool.
Oui, évidemment.
Déjà. Et moi, je n'ai jamais su, mais est-ce qu'à l'hôpital, on lui a fait la leçon? Je ne saurais jamais.
Ah, c'est ça. Mais ça veut dire que quand il vous jurait les yeux dans les yeux qu'il ne buvait plus, vous laissiez tomber l'affaire, en fait, vous n'insistiez pas?
Ben si, je lui disais, c'est pas vrai, je lui disais, c'est pas vrai, mais il me le disait avec une telle conviction. En fait, j'ai toujours su que c'était faux. Mais justement, c'est là où c'est déstabilisant. Vous savez, comment on peut, je me disais, mais comment on peut affirmer, jurer, et surtout la famille, quand même.
Mentir avec autant d'efficacité, je dirais.
Voilà, c'est ça, avec autant de force.
De force, de conviction, oui.
Alors qu'on continue.
Oui.
Si je me suis demandé à un moment si c'est pas moi qui perdais la raison, quoi. C'est déstabilisant, hein.
Oui, c'est certes, mais en tout cas, ça veut dire que lui savait que vous saviez, quoi qu'il ait pu en dire.
Ah oui, ben il savait, je ne me suis jamais cachée. Je lui ai fait la guerre régulièrement, pas tous les jours, mais régulièrement. Mais non, mais il n'y a rien à faire. Une fois, il m'a regardé dans les yeux encore et il m'a dit, on ne parle pas d'alcool à quelqu'un qui ne boit plus. C'est ce genre de choses, quoi. Vous vous dites à un moment, mince, que, attendez, c'est moi qui perds la raison ou quoi?
Et puis j'imagine que comme il n'a pas su qu'il allait mourir, ça n'a pas été une maladie longue, il n'a pas pu mettre des mots sur tout ça et s'expliquer, quoi.
Oui, mais à un moment, moi, j'aurais voulu qu'il se soigne. J'en avais parlé au médecin. Le médecin a dû lui faire, parce qu'il avait fait faire une analyse de 3 jours, comme on fait tous des bilans sanguins, lors d'une visite. Et puis, il a bien vu que les gamma GT, ça n'allait pas. Et là, il m'a dit, parce que comme c'était mon médecin en premier, il a dit, de toute façon, le médecin va lui en parler quand elle ira. Donc, il m'a dit, je me suis un peu fait rouspéter avec le médecin. Et puis... il m'a dit de diminuer un peu, mais diminuer, c'était de vin à table. Alors, je ne boirai plus de vin à table, oui, mais je ne boirai plus de vin à table. Je vais boire de l'alcool dans les cafés,
oui,
je bois dans
sens, oui.
La voiture, de ma, ce que j'ai dans ma voiture. Enfin, je, oui, on compense d'une autre manière, de toute façon. Hein. Oui. J'imagine que rendu là, il fallait une quantité, il faut une quantité. Et j'ai parlé au médecin après qu'il soit parti, il m'a dit, mais vous savez, nous, même les médecins, si la personne n'est pas décidée à se soigner, on ne peut rien.
Ah ça, on ne peut pas obliger quelqu'un à prendre soin de ça, c'est certain. Ça, c'est quelqu'un qui ne veut pas. Dans tous les domaines, c'est pour ça qu'il faut arrêter de se culpabiliser aussi dans l'entourage de quelqu'un qui va mal. Parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à se soigner pour aller mieux. On peut soutenir, on peut essayer, on peut influencer, on peut conseiller. Mais on ne peut jamais, jamais obliger.
Mais vous... moi, ça m'a en partie démolie aussi.
Ben, j'imagine bien. Vous avez dit tout à l'heure que, d'après vous, l'alcool, c'était une sorte d'antidépresseur. Mais est-ce que ça...
Pour moi, c'est ça. Il était malheureux de la fin de ce qu'il avait subi à la fin de son premier mariage. Quoi.
Mais est-ce que ça viendrait pas de plus loin, de son enfance, d'autres expériences plus douloureuses encore avant ?
Alors, je ne sais pas, parce que apparemment, avant, il ne buvait pas. Hein. Avant que ce soit cette affaire, que c'est sa première femme qui lui a ramené une copine à la maison, quoi. Je ne rentre pas dans les détails, mais vous m'avez compris.
Une copine pour elle ou pour lui ?
Pour elle.
Ah oui, d'accord, oui. Donc double choc.
Et qu'il a lui imposé à la maison. Lui, au début, ne s'est pas méfié parce que cette femme était beaucoup plus jeune. Mmh. Et puis après, il a vu qu'il y avait des petites choses, même s'il n'est pas tombé vraiment sur l'acte. Mais enfin, il a vu qu'il y avait des petites choses qu'il ne connaît pas du tout.
Comment...
Et puis même son fils lui a dit, entre maman et cette femme, il y a quelque chose qui...
Mais comment on dit, il y avait baleine sous gravillon, quoi.
Voilà.
Oui,
ouais, c'est très joli, c'est très poétique ce que vous dites.
J'aime bien cette image.
Et c'est là qu'il a commencé, à déprimer, à être, je pense, dépressif.
Et il a perdu le contrôle complètement, effectivement. Là.
Complètement. Et c'est lui, c'est pas lui, il aurait dû les mettre dehors à la limite. C'est lui qui est parti de la maison en premier, donc il a laissé le champ libre, en plus toute la maison pour elle, quoi.
Mais vous l'avez rencontré combien de temps après ça ?
Ouf. Moi, je l'ai rencontré, il avait quitté la maison que depuis quelques mois. Il était séparé que depuis quelques mois. Mais ça n'allait plus déjà depuis peut-être 2-3 ans, peut-être 3-4 ans.
Ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas pris le temps de faire un travail sur lui pour être sain et ouvert à une nouvelle relation qui ne soit pas...
Ah non. On s'est rencontrés, on ne pensait pas ni l'un ni l'autre rencontrer quelqu'un, d'ailleurs. Ça s'est trouvé comme ça, dans ma région. Il est venu... C'était un mariage d'amis communs, de copains communs. On n'était pas du tout destinés à se rencontrer. Quoi. Il ne mettait pas les pieds en Bretagne, et moi, je ne serais pas allée chercher dans Paris. Hein. Donc
au début, quand même, de l'amour, du partage, et puis une façon chez vous de ne prendre que ce qui est bon.
Oui.
Et puis un jour, finalement, cette découverte le début de la retraite que
voilà, parce qu'on va à la retraite, évidemment, quand les couples vivent ensemble, on découpe les choses l'un sur l'autre, et puis moi, il y a peut-être des choses aussi qu'il a découvert sur moi, et puis etc. Mais c'est absolument destructeur. Alors après son départ, en plus j'ai commencé à me parler, ce qui est extrêmement difficile, et ça tourne en boucle dans ma tête depuis, enfin, pas tous les jours, mais régulièrement, c'est qu'il commençait à me parler le week-end, c'est-à-dire le samedi, le dimanche, avant qu'il ne décède, puisqu'il est décédé dans la nuit, du dimanche au lundi. Moi, je l'ai trouvé le lundi matin. Hein. Mais il commençait à me parler.
Mais après avoir eu sa crise cardiaque.
Pardon ?
Après avoir eu sa crise cardiaque.
Oui, quand il est rentré de l'hôpital.
C'est ça. Donc je pense que
il est rentré le jeudi après-midi. Et le week-end, le samedi, dimanche, il commence à me parler. Il me dit, tu sais, parfois t'es un petit peu trop dur avec moi. Mais je dis, mais tu veux rien me dire, tu veux rien me sortir. Je suis bien obligée de le provoquer, quoi. Mmh. Et je lui disais, et puis il me dit, puis il y a une chose que j'ai réfléchie aussi pendant 8 jours que j'ai passé à l'hôpital, c'est que je me suis rendu compte à quel point je tenais à toi. Alors ça, évidemment, ça me fait chaud au cœur. Mais en même temps,
Il a fallu arriver là pour qu'il le dise.
Il commençait à me parler et tout ça reste, ben je reste en état de frustration sur ma faim parce que je me rends compte qu'il allait, je pense qu'il s'était, entre guillemets, racheter une conduite, il voulait se racheter une conduite et je veux dire, vivre autrement. Je sentais qu'il y avait, qu'il était décidé à faire autrement.
Il a raté la dernière marche.
Voilà, exactement.
Et oui. Je pense
et
que
moi,
le,
ça, ça me laisse.
Pardon,
terrible.
Je comprends bien le choc qu'il a eu d'être malade d'un seul coup et d'être à l'hôpital lui a probablement donné matière à réflexion.
Oui, et puis là-bas, il ne pouvait pas faire. Donc il a été, en, je ne sais pas comment d'ailleurs, en état de privation de toute manière.
Mais de toute façon, à chaque fois qu'on a une maladie ou un accident, on change. Ça change la manière de penser, la manière de communiquer. Et vous avez raison, peut-être qu'il aurait commencé à s'ouvrir à vous.
Ben, c'est ce qu'il avait l'air, parce que
c'est ce qu'il avait l'air de commencer
comme
à faire.
Ça,
ouais, ouais.
C'était vraiment nouveau, quoi, je veux dire, c'était une attitude. Et d'ailleurs, il m'avait dit, c'est marrant ce que vous me dites, parce qu'il y a une infirmière qui m'a dit, vous allez voir quand vous allez rentrer chez vous après, parce que c'est un gros infarctus quand même. Mmh. On lui a posé des stents. Et donc, l'infirmière m'a dit, vous allez voir quand vous allez rentrer chez vous, vous allez vous sentir différent.
Et oui, bien sûr.
Après un coup comme ça, quoi.
Mais toujours.
Important.
Et c'est là que c'est pas juste, mais en même temps, attention quand même, peut-être qu'il aurait été différent, mais on n'en est pas sûr. Là, on est en train de vous et moi d'interpréter.
Oui, je vois là, mais en même temps, je ne peux pas avoir aucune certitude, il est parti avec ses pensées, mais vous savez, ça remue quand même, quoi.
Bah, c'est-à-dire, c'est un côté...
Ça me laisse sur ma faim, comme on dit, en parlant...
Oui, tout à fait, c'est-à-dire, ça, vous y étiez presque. Et puis,
ah oui.
Et puis voilà, et ça s'arrête net. Et c'est vrai que c'est un côté vraiment pas juste du tout.
C'est hyper frustrant, quoi.
Mais une fois encore, attention de ne pas idéaliser un scénario que vous ne connaissez pas en réalité.
Oui, mais ceux qui me disent quand même, je me suis rendu compte combien je tenais à toi.
Oui,
bon,
c'est...
des choses comme ça, ça m'a fait plaisir. Mais je me dis, bon sang, il est en train de changer son fusil d'épaule ou quoi, je sais pas.
Il aurait peut-être pu, oui, effectivement, mais c'est bon, c'est...
Il avait un traitement assez lourd.
Bah oui. Mais est-ce que l'hôpital avait envisagé qu'il puisse y avoir une rechute aussi brutale, aussi rapide?
Ah ben, on m'a rien dit.
On vous a rien dit?
Ben oui, en plus, je suis tombée sur un cardiologue qui n'était pas sympa pour deux sous. Mon médecin m'a dit après, pardon, c'est un con. Parce que vous avez été interne à l'hôpital de ma ville, donc la ville où on habite, où j'habite, eh bien, il le connaissait, c'était un type pas sympa. Il m'a dit, oui, vous ne vous rendez pas compte. Quand il a fait, il a eu une douleur dans la nuit, et moi, je ne savais pas, il ne m'a pas dit, appelle le médecin, ni rien. Et moi, j'ai cru que c'était le stress, comme il était extrêmement stressé à cette époque-là. Mm-hmm. Je suis allée chercher une dose d'homéopathie comme une idiote, et il s'est rendormi. Je ne me suis pas méfiée. Le cardiologue m'a dit, oui, vous ne vous rendez pas compte, dans la presse, on n'en parle, et tout, une douleur dans la presse. Je n'ai même pas réfléchi, parce que la veille, il était allé justement chez le médecin, et il avait parlé qu'il sentait un point dans la poitrine, et le médecin, parce que lui, moi, je ne vois rien, mais je ne sens rien, mais c'est peut-être une bronchite non déclarée. Donc moi, j'étais branchée sur la bronchite non déclarée. Je lui ai dit, peut-être que ça va se déclencher ou quelque chose. Mais je n'ai pas pensé à un infarctus du tout. Et je me suis fait engueuler dans le couloir de l'hôpital. Je suis peut-être engueulée par le cardiologue. En plus.
Oui, c'est du grand délire, ça.
Ah oui, vous trouvez?
Mon médecin
m'a dit c'est un con. Donc ça m'a un peu pas réconforté. Si
j'irai pas jusque-là, mais je pense qu'il a été un peu léger sur cette histoire, quand même.
Oui. Il me dit, oui, on n'est pas con. Dans la presse, partout, on en parle. Une douleur dans la poitrine, quand même.
C'était à lui.
J'ai culpabilisé.
C'était à lui de vous en parler, et à vous et à votre mari, au moment de la sortie, et de dire attention, s'il y a quoi que ce soit comme douleur dans le bras gauche ou dans l'épaule, on sait ça.
Oui, puis de toute façon, maintenant, je l'aurais su, mais je ne me méfiais pas, j'étais branchée sur cette histoire de bronchite non déclarée. Voilà.
Oui, bien sûr.
Et je ne pensais pas à ça, je ne sais pas. Puis comme il s'est rendormi après, c'est le matin, il me dit, je ne me sens pas très bien. Je lui dis, écoute, je vais appeler le médecin. Il me dit, appelle le médecin. Donc, comme c'était mon médecin, moi, au départ, on se connaissait depuis. Puis, il a commencé à me soigner, j'avais 25 ans. J'ai appelé, et puis sa femme, dit, quand même, il est allé hier, il ne se sent pas bien. Il me dit, écoutez, il n'a qu'à venir à midi, on le prendra à midi. Mon mari le prendra à midi. Et effectivement, il est allé à midi, et puis, il a fait, encore, dans le malheur, une chance, il a fait son infarctus dans le cabinet du médecin.
Ah oui?
C'est le médecin qui a appelé les pompiers, sont venus, j'ai mobilisé le cabinet du médecin pendant trois quarts d'heure, mais comme ça, il a été pris en charge tout de suite.
C'est ce qui l'a sauvé, oui.
Mais c'était trop tard en même temps, parce que dans la nuit, on m'a dit que c'était déjà un petit qu'il avait fait.
En tout cas, il est parti sereinement.
Ah oui, comme s'il dormait.
Ça, c'est quand même...
Notre ami, il n'a pas souffert, rien. Il a un visage reposé, enfin, voilà. Bon, ça, oui, ça, c'est déjà... Il est parti exactement comme son père qu'il adorait, d'ailleurs, mais un homme formidable. Mais, parce qu'il avait un père extraordinaire, une crème, et sa mère est méchante comme pas deux. Mais bon, bref. Et voilà, et tout ça, je trimballe depuis, et maintenant je suis toute seule, j'ai plus de famille, quoi. Moi, j'ai pas de frères et sœurs, je n'ai pas d'enfants.
Vous n'avez pas eu d'enfants,
Non.
Et sa mère, à lui, est toujours vivante?
Ah non, elle est partie, il y a déjà des années. Elle est encore là.
J'allais vous demander comment elle se comportait avec vous, du coup. Mais
bon, on n'est pas de la même ville. Hein. Lui est de l'Aveyron, moi je suis bretonne. Mmh. Lui était de l'Aveyron, j'étais là-bas quand il m'a amenée pour me présenter. Je savais qu'elle n'était pas commode, mais bon, je suis allée en fait... Bon, j'ai essayé de me motiver, de me dire, bon, écoute, peut-être que toi, ça ira.
Ça va le faire, peut-être. Sur un malentendu, voilà, ça peut marcher.
Exactement. Soit le plus discrète possible, fais-toi petite, bon, que ça se passe bien. Et puis non, tout de suite, ça m'a fait comprendre que j'étais malvenue. Moi, une fille d'ouvrier avec un fils de commerçant, il y avait mes alliances.
Oh là là, mon Dieu, quelle horreur.
C'était une femme qui était hyper, hyper, c'était l'argent, il y avait de l'argent qui comptait.
Bon, en tout cas, elle n'est plus là pour vous pourrir la vie maintenant, ça c'est sûr.
Non, mais je ne suis pas allée souvent là-bas non plus, de toute façon. Mais,
donc vous, mais... vous, depuis, comment vous organisez votre vie?
Oh ben, c'est terrible, quoi. Je sens un vide énorme, et puis ça n'a plus de sens. Moi, de toute façon, je ne veux pas plomber la soirée, mais bon, ben, moi, je sais comment ça va se terminer, inévitablement. Mais voilà, c'est pour ça que je voulais parler quand même un petit peu. Mais je sais parfaitement comment ça va se passer. Et ben oui, parce que... Moi, j'avais un père impossible aussi, invisible. Donc, j'ai eu une enfance absolument minable, ratée. J'ai une image complètement faussée de l'homme, du couple et de la famille, parce que c'est un homme insupportable, tyrannique. Enfin, pas complètement de sa faute. C'est sa mère qui a mal éduqué. Lui et sa sœur, elle les a habitués à avaler des tonnes de médicaments. C'est un homme qui se plaignait du 1er janvier au 31 décembre, du matin au soir. Il ne fallait que l'écouter, quoi.
Ça, c'était
la radio est super. Pardon.
C'était votre père à vous, ça?
Oui. Même la radio, il ne supportait pas. J'avais réussi, il n'y avait pas d'argent à la maison, mes parents étaient pauvres. Enfin, j'avais réussi à persuader ma mère d'acheter un poste radio, quand même, je m'en souviens de ce poste radio. Mais elle guettait par où il arrivait. Et le soir, quand il rentrait du travail, elle me disait, éteins la radio, ton père arrive. Il ne supportait même pas la radio.
C'est intéressant parce que souvent, quand moi je m'intéresse beaucoup au transgénérationnel, et surtout à ce qui se passe dans des couples. Et quand on vous met en miroir, vous avez épousé, vous avez grandi avec un père qui vous a, entre guillemets, pourri la vie. Et vous avez épousé un homme qui a une mère qui lui a pourri la vie.
Oui.
En relation miroir, c'est intéressant, ça aussi.
Ah bon? Et je voulais dire... comment? Oui, je ne sais plus, j'allais vous dire quelque chose. J'ai tellement de choses dans la tête que j'allais vous dire quelque chose. Oui, et je voulais vous demander pourquoi. Parce que j'ai eu un premier compagnon avant avec qui on est sortis ensemble 4 ans et on a vécu ensemble 4 ans et demi, qui était alcoolique aussi. Et mon père a eu une période d'alcoolisme aussi. Je voulais demander, comme je vois que vous avez une analyse, j'écoute un peu ces temps-ci, et je vois que vous avez une analyse assez fine, je voulais vous demander pourquoi des scénarios se reproduisent dans nos vies. Où est-ce le hasard?
Ça, le hasard, j'y crois pas une demi-seconde.
Ah bon? Ah ben moi j'y crois parce que je me dis, si le mot hasard existe dans le dictionnaire, c'est qu'il existe.
Oui, alors ça, il y a beaucoup de mots qui existent et qui ne sont pas forcément très intéressants. Enfin, en tout cas, chacun ses croyances. Moi, je ne crois pas au hasard du tout.
Ah bon?
Non, je pense que la vie nous met des épreuves sur notre chemin jusqu'à ce qu'on en apprenne quelque chose. Et tant qu'on n'a pas appris quelque chose, quand on n'a pas changé ou évolué, alors l'épreuve, c'est ce que j'appelle un autre tour de manège, vous savez.
Là, dans la mesure où c'est les hommes... avec qui j'ai vécu mon père, c'est pas toute sa vie, mais une partie. Il a fait une sorte de désintoxication et après, il n'a plus jamais retouché à une goutte d'alcool. Parce que le médecin, il était peureux et le médecin lui a foutu la trouille, donc oula. Et après, mon premier compagnon, on s'est séparés, parce que, bon, histoire d'alcoolisme. Et puis là, c'est quand même, c'est bizarre, quoi.
Il y a plusieurs choses...
Je vous dis, c'est le fruit du hasard, j'en sais rien.
Pour vous, c'est le hasard. Moi, je vous dis, je n'y crois pas. Comment était votre mère dans ce schéma-là?
hyper soumise.
Et oui.
Elle est, moi, j'ai toujours dit qu'elle était rentrée en mariage comme on rentre dans les ordres. Pareil.
Pas de vague, quoi.
Ah là, bah, vous m'avez dit, pardon ?
Pas de vague.
Ah là là, soumise à tous ses desiderata, quoi. Tout, elle n'arrêtait pas. Venez, va courir chez le médecin. J'ai du mal ici, je suis mal à la crever. Et puis, elle enfile le manteau, l'imperméable, et voilà. Elle courait chez le médecin à, je sais pas, à 500 mètres, il habitait à 500 mètres. Elle courait à 500 mètres, allait vite fait parce qu'on n'avait pas le téléphone. Et puis, elle allait chercher le médecin. Qui revenait et qui de temps en temps l'engueulait. Moi, j'ai entendu. On me mettait dans la petite pièce à côté parce qu'on vivait au centre-ville dans un taudis pas possible. Enfin, que ma mère s'est chinée à garder propre et comme il n'y avait pas d'argent, on vivait. On dormait. Hein. Moi, je dormais dans la même pièce, un lit, 50 cm de mes parents. On dormait, on mangeait dans la même pièce.
Ah, effectivement. Mais pour en revenir à ces schémas répétitifs, il y a deux choses, deux manières aussi de les aborder. C'est ouais. Souvent quand on est enfant et qu'on a un parent qui va mal de manière, je dirais, invisible, c'est-à-dire soit qui est dans l'alcoolisme, soit dans une dépression.
Ah lui, il a avalé des tonnes de médicaments, mon père, il était...
Mais ce que je veux dire, c'est pas une maladie qui se voit, dans le sens, c'est pas quelqu'un qui est en chaise roulante ou qui a les jambes cassées.
Non, je comprends ce que vous voulez dire, c'est une maladie invisible.
Quand on est enfant et qu'on grandit avec un ou deux parents comme ça, on a la sensation qu'on a envie de le sauver. Inconsciemment, on essaie de faire plein de choses pour que ça marche mieux. On se dit...
Ah ben moi, pardon de vous couper juste une seconde, parce que dans ce sens, pardonnez-moi, mais je ne suis pas trop d'accord avec vous, dans la mesure, je ne sais pas, peut-être que c'est vous qui... Mais moi, je détestais mon père. Je le détestais. Je ne rêvais qu'à une chose dès que j'ai eu l'âge de comprendre. Je sais pas, moi, j'avais une dizaine d'années, parce qu'on était moins précoces que les enfants de maintenant, mais moins informés, moins précoces. Mais moi, à partir de 10 ans, je rêvais que ma mère me prenne sous son bras et qu'on se tire, excusez-moi,
bien sûr.
Le terme, mais... Je rêvais de ça, de ne plus voir. Hein. Je le détestais.
Ça, je comprends bien, mais ce que c'est la partie de vous qui détestait, c'est la partie intellectuelle. Mais émotionnellement, dans notre cœur, on a toujours cet enfant qui aurait aimé avoir un père différent, qui aurait aimé. Vous avez sûrement été une petite fille qui se disait, j'aurais tellement aimé avoir un papa, un vrai papa.
Bah oui, puis quelqu'un, on fasse des petites choses normales, classiques. Bah, je voyais bien avec mes petites copines d'école ou de quartier, je voyais bien qu'ils avaient des familles. Ils bougeaient, ils faisaient des choses, ils vivaient quand même. Nous, on ne vivait pas.
Mmh. Mais quelquefois, quand on se remet dans les mêmes schémas, d'abord, c'est parce qu'on est dans ce qu'on appelle une zone, pas de confort, mais une zone qu'on connaît. Ça paraît bête parce que ce n'est pas une zone confortable, mais ça, l'homme qui boit, c'est quelque chose que vous connaissiez.
Mais je n'ai rien connu d'autre non plus.
Vous n'avez rien connu d'autre non plus, mais inconsciemment, vous vous êtes remis avec les mêmes schémas. Dans quelque chose
c'est
que
pas possible, dans un schéma qu'on déteste.
Eh oui, mais parce que c'est très inconscient tout ça. Parce qu'inconscient...
C'est du masochisme, ça.
C'est pas du masochisme, c'est que c'est quelque chose en vous dit ça je sais gérer, je sais faire. Et aussi une manière de vous dire peut-être, mais ça c'est très très inconscient aussi, peut-être qu'avec mon père j'ai pas réussi à ce que ça change, alors avec le prochain je vais réussir à ce que ça change, je vais réussir à sauver mon couple, à sauver cet homme, à faire que ça fonctionne, et ça n'a pas fonctionné, et vous avez recommencé avec un autre qui buvait aussi. Comme s'il y avait une sorte de quelque chose qui n'est pas réglé de ce côté-là.
Et qu'est-ce que... Pas réglé, là, je comprends pas. Pardonnez-moi. Mais...
Non, mais c'est un peu difficile de résumer tout ça à la radio et en 5 minutes, mais enfin, même en une demi-heure. Mais il y a un vrai travail à comprendre de votre position dans votre famille par rapport à votre père, déjà.
C'est drôle, parce que vous me dites, parce que je suis allée consulter une femme qui m'a été conseillée par une ancienne collègue de travail. Elle m'a dit, va voir madame à 20 km de chez moi. Et puis, j'habite dans le Finistère. Et j'ai donc pris le bus, parce que j'ai pas de voiture, j'ai donc pris le bus. Je suis allée 3 fois faire des séances. Elle, cette dame, fait psychologue, fait des séances de MDR.
Mm-hmm.
C'est hypnose, là.
C'est pas vraiment l'hypnose, c'est la thérapie par le mouvement oculaire.
Ah oui, c'est ça. Mm-hmm. Oui, j'ai hypnose parce que ça passe par les yeux, mais je ne savais pas comment l'exprimer. Et donc, et j'ai demandé, donc c'est sont préconisées 3 séances, et c'est des thérapies courtes. Et donc, j'ai trouvé très bien cette femme. Hein, j'ai bien parlé. Et à la fin de la 3e séance, je lui ai dit, pour vous, qu'est-ce qu'il en ressort ? Elle me dit, j'ai fait ce qui était en mon... texto. J'ai fait ce qui était en mon pouvoir, mais pour l'enfance, je ne peux rien. Donc, elle avait perçu des choses, je ne me suis même pas rendu compte, hein, mais elle avait perçu des choses qui étaient, pour elle, difficilement réglables. Quoi.
Ah bon ? C'est curieux pour une thérapeute d'avoir ce genre de discours.
Mais je lui ai dit de me parler franchement. Je lui ai dit à la fin de la première séance, je verrai bien ce qu'elle me dira. Et elle, pourtant, elle a l'air d'avoir bonne réputation, elle a du monde.
C'est pas réglable. Donc il y a des problèmes et je peux rien y faire.
Elle m'a dit, écoutez, j'ai fait ce qui était en mon pouvoir, mais pour l'enfant, je ne peux rien. Parce que je lui parlais, j'ai des tocs de rangement. Comme mon père, il tournait, et puis qui ont ressurgi décuplé. À une période, puis j'ai travaillé, donc j'avais pas le temps. Mais là, qui sont ressortis décuplés dans ma solitude, ma solitude de couple au début aussi un petit peu. Il tournait X fois autour de la table pour ranger des chaises, il m'interdisait de m'asseoir ne t'assois pas sur ton lit, ta mère vient le faire quand j'étais toute petite. De toute petite, hein, ça m'a énormément marqué ça. Il était bourré de toc, quoi.
Et là, vous êtes face à une thérapeute qui vous dit on peut rien faire là-dessus.
Bah, elle m'a dit, pour l'enfance, je ne peux rien. C'est texto ce qu'elle m'a, les propos qu'elle m'a tenus avant que je parle. Bon, merci madame, au revoir madame.
Les bras m'en tombent, hein, Martine, vraiment.
C'est vrai ?
Bah bon, enfin, le propre de n'importe quelle thérapie, et là je parle de toutes les thérapies réunies, c'est vraiment d'aller travailler sur la base, sur l'enfant, surtout quand il y a eu, comme vous, comme chez vous, effectivement un père qui vous a... pas traumatisé, mais pas loin, qui vous a en tout cas...
Ah oui, moi j'en ai parlé au médecin, il me dit, vous avez une hérédité, enfin, cherchez une médecin.
Il vous a dit quoi, pardon ?
Mon médecin traitant m'a dit, c'est lui qui soignait mes parents aussi, hein. Il m'a dit, vous avez une hérédité chargée.
Chargée, oui, puis surtout, on sent que comme le socle n'est pas stable, il y a une insécurité permanente, une peur. Une peur de d'être seule.
Oui, je suis la fille de... De toute façon, ma mère était une anxieuse, mon père un hyper angoissé, anxieux. Alors, de toute façon, je ne pouvais pas être une fille cool, hein. Mais, et encore, je trouve que j'ai pas mal de recul par rapport à certaines choses, mais... Je sais pas. Je comprends pas tout ça. C'est foutoir un peu.
C'est vrai, vous n'avez pas eu de chance d'être tombée sur un thérapeute, une thérapeute en l'occurrence, qui ne vous a pas accompagnée, qui vous a pas aidée du tout, quoi.
Ah ben, c'était des thérapies courtes, hein, c'est ça.
Oui, non, mais attendez, thérapies... On fait pas 3 séances de MDR quand il y a un problème comme ça. On décortique les choses beaucoup plus avant. Bah, évidemment. Enfin, c'est pas comme ça.
Je vais sur sa carte, donc c'était thérapie courte. Mais dis-moi, le MDR, c'était 3 séances et puis basta, quoi. C'était...
Bah basta quand on a un résultat, mais quand on n'en a pas, c'est qu'il y a un souci. Enfin bon, de toute façon, ça ne sert à rien, je sais pas comment
oui,
on a travaillé.
Bah maintenant, ça s'est passé il y a 9 ans peut-être.
Ce qu'il faut voir, c'est aujourd'hui comment je peux vous aider et qu'est-ce que vous pourriez faire pour aller mieux dans votre vie.
Je ne pense pas que vous puissiez m'aider, même franchement. Même avec tout le pouvoir que vous avez et les connaissances que vous avez, je crois que maintenant, c'est trop tard de toute manière. Mais c'était pour déposer, comme ça, pour expliquer, puis que... pour dire que ça existe, quoi. Il existe toutes sortes de choses.
Pourquoi c'est trop tard ?
Ah, parce que c'est trop tard.
Mais pourquoi ?
Parce que ma décision est prise.
Donc si je comprends bien, vous me parlez de suicide. mettons des mots clairs sur les choses, c'est
oui,
important.
Oui, bah, si vous voulez. Oui, de toute façon, il ne peut pas en être autrement. J'en veux plus, de toute façon. J'en veux plus, je suis à saturation, quoi. J'en ai depuis l'enfance, si je suis le parcours, au secours, quoi.
Mais en dehors de cette thérapeute-là, vous n'avez jamais vu quelqu'un avant ?
Si, il y a quelqu'un de super. J'ai cherché. Les psychiatres, les médecins, moi, les médicaments, moi, ça, je ne supporte pas tous ces trucs-là. Et j'ai trouvé un thérapeute super, mais je ne peux plus, j'ai plus de sous. J'ai une toute petite retraite, moi. J'ai plus de sous pour aller le voir. Il est super. Il était vraiment bien, mais il me comprenait en même temps.
Moi, je vous enverrais bien chez des gens qui... C'est une association qui s'appelle les Hypnos du Cœur et qui propose des séances d'hypnose, soit gratuites, soit très peu chères en fonction des moyens des gens.
Mais vous ne croyez pas, Sabine, que c'est un peu trop tard maintenant? J'ai 68 ans.
Non, je ne crois pas que ce soit trop tard.
Là, maintenant, c'est toute une vie qu'il faudrait repasser au... Enfin, il faudrait décortiquer, c'est plus possible.
Ben je fais ça à longueur de temps avec les gens qui viennent me voir, donc je sais. Mais non, c'est pas trop tard.
Non, mais je ne mets pas votre parole en doute, hein, c'est pas ça. Mais je dis moi, à mon fort intérieur, quoi.
Moi, ce qui m'ennuie un peu, je vais être très cache avec vous, comme je suis avec tout le monde.
Bah oui, vous pouvez, hein, de toute façon.
Vous ne m'en voudrez pas, mais vous savez, j'ai eu tellement autour de moi des gens qui se sont battus pour vivre et qui n'y ont pas réussi.
Ah mais je comprends que ça. Je comprends très bien.
Ça me fait toujours du mal quand j'entends quelqu'un qui dit non, je vais pas y arriver, je veux que ça s'arrête.
Mais justement, l'arrêt, justement, pardon, hein, j'étais obligée de vous le dire quand même, mais justement, ça peut être une libération aussi. Hein. Attention, ça peut être une libération aussi.
Mais vous êtes en bonne santé.
J'ai pas de sous pour vivre, j'ai plus personne de proche. Je vois pas où est l'intérêt, quoi. Là, j'aurais besoin de pour être terre à terre, j'aurais besoin de m'acheter, tiens, de vous faire rigoler, peut-être des petites culottes, des tapes, j'ai pas de sous.
Oui, non, ça, c'est pas spécialement rigolo. Mais il y a quand même des moyens d'avoir des aides.
Ben, je peux pas avoir plus.
Vous avez quoi comme aide?
J'en ai pour 5-10 minutes, c'est pas trop.
Non, allez-y. On fera une coupure au moment des infos, et puis je vous récupère.
Non, mais je ne vais pas prendre l'antenne non plus. Juste pour vous citer un fait qui est vraiment bien marquant, qui montre bien. J'ai une petite retraite pour vivre. Et à tel point que, bon, j'habitais dans une maison HLM, un petit pavillon HLM avec mon mari. Et puis, arrivé à un moment, j'avais des sous de côté, mais à force de piocher dedans tous les mois, ça ne fait pas des petits. Hein. Et donc, il est arrivé un moment où je pouvais les loyer, c'était très difficile, et j'ai commencé à accumuler du retard de loyer. Mmh. Et donc, j'avais demandé déjà depuis un moment un appartement, quelque chose de plus petit. Mais il tardait, il ne me donnait pas, jusqu'à ce que l'huissier ait frappé à ma porte. Et là, j'ai dû demander l'aide d'une assistante sociale pour aller à l'office HLM, en leur disant, mais vous rendez compte, ce qui se passe, ça fait drôle quand un huissier, moi qui n'ai jamais eu des problèmes d'argent comme ça, malgré ma vie modeste, je dis, l'huissier qui vient frapper à votre porte, oui. Et là, en 3-4 mois, j'ai perdu 10 kilos. Je ne pèse plus que 34 kilos. Et donc, eh bien, ils ont quand même fini par m'attribuer un logement plus petit, un T2. Mais pour alors, j'avais accumulé un peu de dettes. C'était pas une somme énorme, mais enfin, j'avais accumulé des dettes. Il a fallu que je passe au tribunal pour aller à la commission de surendettement. Mais je demandais au CCAS de la ville de m'aider. Donc, il y a une assistante sociale qui m'a aidée quand même, qui m'a soutenue. Et qui venait au tribunal. Je dis, c'est pas possible. Et puis finalement, vu ma situation, vu que j'avais jamais eu de problème, etc., etc., enfin, tout a été parfaitement expliqué et que l'office HLM avait tardé à me donner un logement petit, la dette, qui n'était pas énorme, a été effacée.
Bon, ça c'est fait.
A fini par être effacée, déjà. Enfin, c'était pas une somme énorme, mais j'ai été obligée d'accepter une curatrice qui gère. Et ça, pour moi, ça a été quelque chose de... C'était le signe, mais alors... le signe de mon incompétence, en fait.
Oui, certes, mais enfin, ça vous a quand même amené une solution.
Oui, ça m'a amené une solution, mais pour moi, j'ai perdu un peu de ma dignité là-dedans, si vous voulez. Je ne suis pas fière du tout, hein, mais de la dignité, pour moi, c'est incompétent. C'est un signe d'incompétence.
Ça ressemble à l'intro dont je parlais tout à l'heure. Quelquefois, on réussit, quelquefois, on apprend. Vous avez raté, vous avez appris.
Ah ben oui, ça j'ai appris. Oui, mais j'ai raté parce qu'on ne me donnait pas non plus d'appartement plus petit, je ne pouvais pas faire autrement.
Est-ce que vous l'avez maintenant?
Un mois après, je me retrouvais sur la route avec mes meubles. Hein.
Est-ce que vous l'avez maintenant, l'appartement?
Oui, ça y est, j'y suis.
Bon, donc il y a aussi des choses positives. C'est ça qui est curieux, quand je vous écoute, Martine, il y a une énergie de vie en vous.
On me l'a dit, ça.
Qui me dit l'inverse de vos mots. C'est assez étonnant.
Bon, je tiens avec les nerfs, je vais vous dire aussi.
Non, ce n'est pas ça que j'entends. Non, ça c'est autre chose. Mais il y a vraiment, il y a vraiment une énergie de vie en vous qui est puissante.
Et mais c'est bizarre parce qu'on me l'a dit encore dernièrement.
Vous voyez, comme quoi?
T'es encore dynamique. C'était des anciens copains que j'ai retrouvés. Enfin, bon, je les ai eu au téléphone. Mais quand même, tu as quand même, malgré tout, t'es encore dynamique. Tu parais dynamique encore.
Et cette énergie-là, je pense qu'elle aurait envie qu'il se passe des choses. Il peut se passer plein de choses encore. Des rencontres amicales, il peut se passer des... Pourquoi non? Vous n'avez pas envie d'avoir d'amis?
Si, encore, je ne sais pas. Je ne suis même plus sûre. Je suis saturée des gens. Il y a beaucoup de bienveillance, c'est certain, mais il y a aussi beaucoup de gens méchants. Au décès de mon mari, qui m'ont même pas un coup de téléphone depuis 10 ans et demi, quand on a été des copains et qu'on a dit je t'apprécie beaucoup, moi, je ne sais pas de quelle façon on apprécie, mais bon... C'est moi, c'est pas ma façon de me manifester.
Laissez tomber ces gens-là, allez vers des gens qui sont bienveillants.
Oui, mais il y en a...
Même s'il y en a peu.
Moi, je ne suis pas une fille à des associations. Je suis très indépendante, je n'aime pas ça.
Et vous occupez des autres en tant que bénévole, ça ne vous intéresserait pas? Non.
J'ai suivi ma mère pendant 4 ans et demi qui était en EHPAD avec la maladie d'Alzheimer. Ça m'a démoli, ça aussi.
Ça peut être des choses plus légères, comme s'occuper des enfants, par exemple.
Oui, je sais, il y a de l'aide aux devoirs, des choses comme ça.
Faire la lecture, des choses comme ça.
Ma vie est complètement sans dessus dessous. Là, je n'ai pas encore mangé. Je dors n'importe quand, je mange n'importe quand. C'est un chaos.
Oui, c'est le bazar, c'est ça.
Ah, c'est le bazar. Exactement, vous avez trouvé le terme.
Bon, moi, je suis très maniaque, donc je vais vous aider à ranger tout ça.
J'étais très maniaque. Parce que, Et évidemment, modèle du père, et il fallait que tout soit rangé au cordeau, il fallait que... Ah, j'étais très maniaque.
Oui, mais par obligation. Martine, on va faire comme on a dit, on laisse la place aux informations, si vous le permettez.
Oui, bien sûr, évidemment.
On reprend notre conversation dans quelques minutes.
Oui, je ne veux pas trop vous retarder non plus.
Sabine Marin vous écoute sur Europe 1.
Europe 1, la libre antenne, Sabine Marin.
Merci d'avoir choisi la libre antenne d'Europe 1 pour accompagner cette soirée. Il nous reste une petite heure à passer ensemble. Vous le savez, nous sommes en direct jusqu'à 1h du matin. Et vous pouvez continuer à nous appeler si vous avez envie de parler ce soir. Ou même si je n'ai pas le temps de vous accueillir ce soir, ce sera demain ou après-demain. Dans ces cas-là, vous serez bien sûr prioritaire. Vous faites le 39-21, Fanny et Kelvin, pardon. Fanny et Kelvin vous attendent au standard 39-21. Et pour réagir par SMS... 739-21 en commençant par le mot nuit et votre message que je transmettrai bien sûr s'il est important.
La libre antenne d'Europe 1, Sabine Marin accompagne vos nuits.
Oui Martine, c'est moche de vieillir, hein. je me prends la langue dans le tapis, je ne sais plus ce que je dis.
C'est moche de vieillir.
Vous avez entendu, je me souviens même plus du prénom de mon assistant, c'est n'importe quoi. J'ai honte. Alors parlons de vous un petit peu. Vous savez, quand on est perturbé comme vous l'êtes, parce que comme vous dites, si vous êtes un peu en vrac, en dessous, vous êtes d'accord avec ça? Allô?
C'est complètement, comme vous avez dit, c'est le bazar.
Ah, pardonnez-moi, ça a coupé, donc je ne vous ai plus entendu pendant quelques instants.
Je disais simplement, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est le bazar.
Et voilà, et quand on est dans j'allais dire un merdier pareil, mais c'est vraiment le mot.
Ah oui, non, mais vous avez utilisé le mot, j'aurais pas osé sinon.
Moi j'ose, vous savez que je suis cash, parce que je parle aux
gens
comme je parle
moi,
dans
je
la vie.
J'aime bien qu'on me parle, franchement.
Le politiquement correct, c'est pas mon truc.
Pas moi non plus. Donc, mais j'ose pas à l'antenne, c'est délicat, quoi.
Oh, c'est pas un gros mot merdier, hein, ça va, il y a pire.
Oui, c'est vrai.
Mais quand on est comme ça, on est temporairement moins intelligent, parce qu'on est perdu. Et donc, c'est pas dans ces moments-là qu'il faut prendre des décisions, parce que c'est la partie la moins intelligente de soi-même qui prend des décisions, et c'est pas très malin de se laisser diriger par cette partie-là, à ce moment-là.
Non, mais enfin, moi, c'est toujours su que ma vie est finie comme ça. C'est toujours su, depuis longtemps, hein, depuis longtemps.
C'est quand, depuis longtemps?
Ouf, c'est jeune, peut-être, je ne sais pas.
Pardon, depuis quand?
Depuis, j'étais peut-être jeune, déjà.
Jeune?
Jeune, quoi.
Qu'est-ce que vous vous disiez alors quand vous étiez jeune? Que la vie valait pas la peine d'être vécue?
Oui, un peu. Que c'était un sursis presque permanent.
Et donc j'ai l'impression que ce père dont vous avez finalement peu parlé, il a fait des dégâts considérables chez vous.
Oh là là, c'est peu de le dire. Sabine, c'est peu de le dire. Ah oui, c'est... Et puis alors, un truc que je voulais vous dire aussi, mais je veux pas trop vous retarder non plus, mais simplement... de dire que, alors, je ne sais pas, par rapport à lui, même maintenant, il y a des moments quand je suis en train de ranger un truc ou que je recommence deux fois, bon, que j'ai un toc finalement, eh ben, je lui crie, je lui hurle dessus, quoi. Je lui hurle, enfin non, pas tout le quartier, hein. Quand même, chez moi, quoi, je dis, vous comprenez, quand je dis, je l'engueule, quoi. Je l'engueule, comme j'ai de cash, je parle de cash aussi, je l'engueule vraiment. J'en ai marre. Et puis après, je me dis, punaise, je suis peut-être punie alors parce que c'est presque de l'ordre, pardon, quand je n'ose pas utiliser le mot haine, mais c'est presque de cet ordre-là.
Oui.
Que je me trimballe, ben, parce que je dois me trimballer depuis l'enfant. Alors évidemment, il y a des personnes, il y a des périodes, pardon, quand je travaillais, quand je dis, bon, il y a des périodes de notre vie où on a une vie vraiment beaucoup plus active, où on y pense moins, où on... Et puis là, il y a plein de choses, évidemment, qui me ramènent à tout ça, parce que j'ai plus de temps de penser, parce que je vais vers le bout de ma vie, parce que ceci, parce que cela. Et puis, voilà. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui m'a... Ben, je me demande, j'ose utiliser le mot qui m'a en partie détruite, quoi.
Ben là, maintenant, je le comprends au fur et à mesure de notre conversation, et vous avez des blessures qui sont béantes encore.
Ah oui, je pense. C'est béante, même. C'est un mot, quand même, qui est puissant, hein.
Mais quand vous avez travaillé avec ce thérapeute qui vous aimiez bien,
oui.
Qu'est-ce que vous avez fait? Sur quoi vous avez réussi à avancer?
Avancer, je ne sais pas si j'ai avancé. Hein. De toute façon, je crois que ça, personne n'arrivera à me l'enlever. Non, mais il n'y a pas de tire-bouchon sur la terre qui existe qui puisse m'enlever ça. Je crois que je suis marquée à vie et que rien ni personne ne pourra m'enlever ça. Apaiser un peu, peut-être, mais personne, non. Je peux pas. Là, je vous parle et je sens que ça sourd en moi, quoi. Ça, je sais pas comment vous expliquer ça. Ça gronde en moi.
On ne peut jamais, évidemment, on peut jamais changer le passé, mais on peut changer les émotions qui sont attachées à ce passé. Et ça, l'hypnose est un très bel outil pour ça.
Ah bon?
Oh oui. C'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure.
Ça apaise. Vous voulez dire ça apaise?
C'est-à-dire qu'évidemment, on changera jamais ce qui s'est passé il y a 10, 20, 30, 40, 50 ans. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Tout ce qui reste aujourd'hui, ce sont les émotions et les souvenirs qui sont accrochés à ça. Et là, on peut travailler dessus en hypnose. On peut aller travailler sur la petite fille que vous étiez. On peut aller l'apaiser, la rassurer.
Je me permets même, ne soyez pas vexée, de vous dire que c'est des doutes.
Ben oui, parce que
c'est trop tard. Pour moi, c'est trop tard.
Parce que vous vous êtes barricadée dans une croyance limitante qui est « c'est trop tard ».
Ben oui, mais j'en suis intimement convaincue. Et sa sœur, d'ailleurs la sœur de mon père, qui était faite sur le même modèle, puis qui ont été élevées par la même mère, n'est-ce pas? Eh bien, elle a bousillé la vie de sa famille aussi. Donc, encore pire, la fille non voyant, puisqu'ils avaient, son mari c'était mon parrain, avec mon parrain, ils avaient deux enfants, dont un fils non voyant.
Vous voyez, cet homme-là, faites-vous une victime? Vous êtes d'accord avec ça?
Mais lui, est-ce que je me dis, eux deux, parfois je me raisonne en me disant, eux aussi finalement ils ont été, bah, puisque vous parlez de victime, la victime de leur mère.
Certes, mais ça c'est
ils
pas...
Ils ont des circonstances atténuantes, mais oui. Moi je peux plus, on peut pas remonter l'histoire. Comme
non
ça.
Mais une fois de plus, c'est ce que je dis souvent, ça explique mais ça n'excuse pas.
Je sais pas.
Non, ce que je veux dire c'est que vous, ce père-là, faites-vous une victime. Le problème okay. C'est que quand on a ce manteau de victime sur les épaules et qu'on le garde, c'est comme si vous continuiez chaque jour de votre vie à lui laisser le pouvoir de continuer à vous faire du mal.
Ben oui, mais je peux pas faire autrement, je peux pas, de toute façon. Dis-moi, cette détestation, on l'enlèvera jamais. C'est pas possible.
Ben, si vous en êtes persuadé, j'arriverai pas à vous persuader du contraire, mais moi je sais que si, c'est possible, bien sûr que c'est possible. Les thérapies sont là pour ça, hein, pour se libérer de tout ça. Pour se dire un beau jour, ok, ça va, le passé, je le conjugue au passé. Parce que là, votre vie, vous ne la conjuguez jamais au présent et plus au futur. Vous ne la conjuguez qu'au passé.
Oui, mais j'ai pas trop le choix, non plus.
Et pourquoi?
Parce que, je sais pas, puis l'avenir ne m'intéresse plus. De toute façon, c'est clair, clair et clair. Mais ça, c'est clair à 200%. On peut pas vivre... J'en ai marre, je suis gourmande, je peux aller chichement comme ça. Moi, c'est trop... dur, trop douloureux, trop pesant, trop frustrant, trop... Non. Tout ça, j'en veux plus.
Est-ce que vous accepteriez au moins de contacter les hypnos du cœur?
Si vous voulez. Hein. Ah oui, bah oui, évidemment, je vais pas refuser. Évidemment.
Ça vous coûterait rien ou pas grand-chose. Mm-hmm. Et vous pourriez être accompagné sur un terrain différent avec quelqu'un qui pourrait justement vous amener à vous libérer de beaucoup de choses. Ce sont des gens formidables, vraiment. C'est une équipe d'hypno qui ont monté. Ils sont présents dans plusieurs grandes villes de France.
Oui, mais moi, j'habite pas dans une grande ville. Enfin, j'habite dans une ville de 60 et quelques mille habitants, une ville moyenne.
Oui, mais vous verrez en les appelant où ils sont. Et puis, ils peuvent peut-être proposer des séances par téléphone ou par Zoom, par Skype.
J'ai pas Internet, moi.
Ben par téléphone.
Les moyens d'avoir tout ça, j'ai pas les moyens d'avoir Internet. Eux, s'ils ont raconté, et puis il m'en a... Je dis, je suis née sous une mauvaise étoile. Je suis la dernière avant que vous en terminiez. Vous voyez, on m'a livré un poste de télé... Pour vous dire, ma télé est foutue, il y a... Un samedi soir, il y a une dizaine de jours. Bon, très bien, j'ai demandé à la caractrice, elle a dit, ok, il y a un peu de sous en compte, vous pouvez racheter une autre. Je téléphone dans une enseigne, j'appelle une enseigne, il me livre un poste. Un mercredi dernier, la semaine dernière, donc il me livre un poste. Le jeudi midi, il est tombé cassé. Ça vous dit quelque chose?
Mais oui, parce que vous êtes dans une spirale négative. Cette énergie de vie que je sens en vous, vous ne la tournez pas vers la lumière, vous la tournez vers l'ombre.
Oui, mais enfin... C'est pas fait exprès, hein.
Bien sûr que non, c'est pas exprès.
Je peux pas dire que je suis pas née sous une mauvaise étoile. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je crois à ça quand même bien. Je pense qu'il y a des gens qui sont... voilà, c'est comme ça. Ils naissent avec une cuillère en argent ou en or dans la bouche, d'ailleurs. Puis d'autres gens qui naissent sous le signe de la poisse.
Vous êtes remplie de certitudes, Martine.
Ben, vous... parce que j'en ai eu assez de démonstrations.
Et elle vous bloque, ces certitudes-là.
Oui, mais j'ai eu assez de démonstrations.
Moi, je vous dis qu'il y a d'autres chemins possibles. Essayez au moins de contacter ces gens-là. Hein.
Oui.
Essayez de tourner votre énergie, cette énergie qui est là, quand même, ça qui est incroyable, que j'entends qui est là, de la tourner vers des choses positives, vers la lumière.
Mais l'énergie que vous entendez, c'est les nerfs. Je ne tiens qu'avec les nerfs.
Non, c'est pas ça dont je parle.
Ah bon?
C'est pas
moi,
ça
je trouve que je tiens qu'avec les nerfs.
Bien sûr, ça c'est autre chose. Je parle pas d'énergie. Ça, c'est pas d'énergie, ça. C'est le problème d'être sur les nerfs et d'être en dépression.
Je ne vois pas trop de quoi vous parlez. Mais vous êtes plus habitué que moi. Hein. Vous êtes, oui.
J'entends bien.
Professionnel.
J'entends bien que c'est compliqué pour vous, mais faites-moi plaisir, vraiment, appelez les hypnos du cœur.
Okay.
Vous trouverez leurs coordonnées. Attendez, je vais voir si. Parce que vous allez me dire que vous n'avez pas Internet.
Je veux bien, si vous avez un numéro, oui, je veux bien. Vite fait.
Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais devoir vous quitter, mais je vais chercher les coordonnées, je vais les donner à Kelvin, et il va vous rappeler. Là, dans l'heure qui vient, dans la demi-heure qui vient, il vous rappelle rapidement.
Bon, d'accord.
Pour vous donner ça. Parce que le temps que je les retrouve, là, ça va être un peu long en direct.
Ok, bon, ben, c'est sympa à vous quand même. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis, j'en ai encore à vous raconter, mais je pense que vous m'avez déjà. Bien écouter,
et puis,
pardon d'avoir été un
non,
peu
non,
long.
Non, mais attendez, on est là pour ça, Martine. Et puis, ce que j'aimerais aussi, c'est que vous laissiez votre mail à Kelvin. Si vous... Ah ben non, pardon,
oui,
non, pardon excusez-moi.
C'est, Internet,
c'est les réflexes, c'est sur les réflexes.
Bon, oui, je comprends bien. En plus, il y a une vieille école. Mais non, c'est parce que je n'ai pas de sous, en plus.
Bon, en tout cas, il a votre téléphone. Je m'occupe de vous trouver les coordonnées. Mm-hmm. Et peut-être même d'autres coordonnées aussi qui pourraient vous aider. Et on vous transmet ça là dans l'heure qui vient.
Bon, ok.
Ça
oui,
marche
parce que... Là, je vais me faire à manger, vous voyez.
Bah, très bien.
C'est...
Réservez-moi un petit truc, j'ai pas dîné non plus encore.
Ah, bah d'accord. Bah oui, mais alors, je sais pas, vous avez au moins 500 km à faire.
Mais
Je suis en Bretagne.
J'ai des ailes dans le dos, vous savez. Je peux tout faire.
Ah oui, ou alors vous avez un supersonique, je sais pas.
Oui, bien forcément. Allez.
Ah, bon. Bon, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Vous êtes extrêmement sympathique. Et puis... Ben merci, j'espère que je n'ai pas plombé la soirée tout le monde.
Non, 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 tout va bien, Martine. Mangez correctement et on vous rappelle dans l'heure qui vient.
C'est sympa. Merci et puis bonne soirée à tous.
Merci Martine, au revoir.
Et aux auditeurs aussi, au revoir.